Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde. Et si on allait ensemble écouter le monde changer, voir comment on vit ailleurs? On retournera d'abord sur l'île grecque de Lesbos. Prendre le temps d'entendre l'humanité qui se cache derrière les chiffres. C'est plus de 12 000 réfugiés qui étaient dans le camp de Moria calciné. Et on se demandera comment l'Europe compte réagir. Deuxième étape, la côte ouest des États-Unis qui flambe. Des millions d'hectares partent en fumée. Et le débat sur le réchauffement climatique reste malgré tout désespérément polarisé, vous l'entendrez. Record de longévité au pouvoir pour Shinzo Abe, l'ancien premier ministre japonais qui vient de se retirer pour raison de santé. Et pourtant, son bilan social est assez terrible, on sera à Tokyo. Et puis on ira aussi sur les bords du Mékong, un fleuve nourricier pour des dizaines de millions de citoyens de 6 pays, mais qui est aussi un enjeu de pouvoir, vous l'entendrez. La page culturelle sera musicale et planante avec une magnifique chanteuse marocaine. Quant à Joseph Chovanec, il se lancera dans un comparatif des bibliothèques qu'il croise dans ses voyages. Les carnets sont ouverts et on file en Grèce.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Ça fait maintenant un peu plus de 10 jours qu'un incendie a ravagé le camp de migrants de Moria sans faire de victimes, ce qui paraît miraculeux vu les conditions terribles dans lesquelles s'entassaient plus de 12 000 réfugiés. Depuis jeudi, ils sont peu à peu relocalisés dans un nouveau camp sur l'île de Lesbos, un camp présenté comme provisoire. L'Allemagne a annoncé qu'elle accueillerait 1 500 réfugiés et 400 mineurs isolés doivent être relocalisés dans différents pays d'Europe, dont la France. Voilà où nous en sommes. Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour Sophie.
Vous avez passé 5 jours sur Lesbos, Hélène, et pris le temps de rencontrer des dizaines de migrants qui tous espéraient que cet incendie allait enfin être l'occasion de quitter la Grèce, de ne plus attendre l'examen de leur demande d'asile dans ces conditions. On va en écouter 4 et entendre leur état d'esprit, leurs espoirs.
Oui Sophie, ce sont tous des réfugiés que j'ai rencontrés dans un état de dénuement le plus total, avec le peu d'affaires qu'il leur restait après l'incendie, entassés au bord de la route, parfois sans avoir rien mangé depuis plusieurs jours. Et malgré cela, c'est souvent très spontanément qu'ils sont venus à mon micro pour témoigner. À commencer par Prince, un jeune Congolais de 19 ans. Il m'a fait part de sa détresse, traumatisé par l'incendie, mais surtout parce que dans la panique, il a perdu sa petite sœur de 17 ans avec qui il a fui le Congo.
Depuis 4 jours que je suis là, je ne fais que marcher du coin jusqu'au coin. Il y a des manifestations. Je n'arrive pas à retrouver ma sœur. Et vu qu'il y avait le monde, on nous a séparés. On a laissé les autres dans l'autre côté, l'autre dans l'autre côté. Donc on s'est vraiment perdu et on interdisait les gens de passer pour aller chercher leur famille. Je ne sais pas comment est-ce que je vais retrouver ma sœur. Elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. On n'a rien. Et ça fait 4 jours que je suis là et je n'arrive même pas à manger. Je n'arrive pas à manger parce que je n'ai qu'elle. Donc c'est la seule personne qui me reste au monde en fait. Elle est tellement fâchée, elle n'arrive pas à parler, elle pleure tout le temps. J'ai eu peur que ça puisse lui arriver quelque chose, attaquer, tel que la violence, je ne sais pas, du viol, parce qu'il y a souvent des gens qui violent des gens. Il y a souvent des viols ici, en fait, donc je ne sais pas, on a toujours peur ici.
Hélène, est-ce que vous savez si depuis, Prince a retrouvé sa sœur ?
Alors, on a échangé par WhatsApp, il m'a dit qu'il ne l'avait pas retrouvée. Mais certains disent, parmi ses amis réfugiés, qu'elle pourrait faire partie de ces quelques centaines de mineurs isolés emmenés le lendemain de l'incendie à Thessalonique, en Grèce continentale, par les autorités. Mon cœur me dit qu'elle est vivante et que je dois espérer, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas.
On lui souhaite d'être bientôt rassuré, qu'il soit réuni. Parmi les autres réfugiés avec qui vous avez échangé, il y a Fariba, cette Afghane de 15 ans qui vous a particulièrement touchée.
Oui, je l'ai rencontrée sous son abri de fortune, à même l'asphalte. Cette adolescente, elle est bloquée à Lesbos depuis 1 an avec ses parents et sa sœur. Et quand je lui ai demandé « What do you want ?»« Que voulez-vous ?», elle a été submergée par l'émotion.
We want freedom. Just freedom.
On veut être libre, juste la liberté, pas cet enfer à Lesbos. Nous tous ici, on est des humains, pas des animaux. Moi ici, je n'ai rien. Ce n'est pas juste. Si on me ramène à Moria, j'y mettrai le feu, je le ferai moi-même. Je ne peux plus vivre ici. Je veux un toit en Europe, juste une ville. Un chez moi, comme tout le monde. Que la police me protège et que je n'ai plus peur en dormant. Je veux aller à l'école.
want to go to school.
Ici, c'est impossible.
Here, it's impossible.
En fait, comme Fariba, où qu'ils aillent, ce que recherchent tous ces réfugiés, c'est juste une vie en sécurité. Mmh. Ils ont fui la guerre, ils ont fui le terrorisme, alors qu'ils avaient un travail, une maison. Mohamed est père de famille. Cela fait un an qu'il se trouve à Lesbos avec sa femme et ses enfants.
I had my self job. I worked in my garden.
Je travaillais en Afghanistan dans mon jardin comme fermier. Et puis j'enseignais aux enfants les sciences, comme la biologie, la physique.
Knowledge, like biology, physique, and also I had a class.
Dans le camp de Moria aussi, je donnais des cours d'anglais aux enfants, mais ils ont tout brûlé.
But they fired everything. I came here to make a better life for.
Je suis venu ici pour offrir une meilleure vie à nos enfants. Je ne savais pas qu'on tomberait dans un endroit si dangereux. Mais j'espère qu'un jour, notre futur sera meilleur.
Alors, en rejoignant l'Europe, ces réfugiés espéraient trouver la paix, hein, on l'entend. Et certains vous ont dit, Hélène, qu'aujourd'hui, ils regrettaient d'avoir fui.
Oui, certains me l'ont dit. S'ils avaient su dans quelles conditions ils se trouveraient ici, à Lesbos, ils n'auraient peut-être pas franchi le pas. Le Somalien Brahim n'aurait jamais cru se retrouver dans un lieu encore plus hostile, dit-il, que sa ville de Mogadiscio.
Des terroristes m'ont attaqué là-bas. Donc je suis venu chercher la sécurité. Ils m'ont kidnappé à cause de mon travail. Je suis journaliste, activiste. J'aide mon peuple en disant la vérité à la télévision. Ils m'ont battu, torturé. Et j'ai payé une rançon, 10 000 avec ma famille. Voilà pourquoi je suis là. Depuis ce moment-là, je cherche un endroit sûr. Mais je ne suis toujours pas en sécurité. On dit de Mogadiscio, d'où je viens, que c'est le pire endroit au monde. Mais ce camp, c'est le pire des camps. Ils ont tué un Somalien au couteau. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Ce n'est pas humain.
En écoutant ces témoignages, Hélène, on entend leur immense réticence à retourner dans un camp fermé.
Oui, et certains sont encore dans la rue d'ailleurs, mais les autorités ont commencé à les forcer à s'y installer. Mais elles disent, et c'est nouveau, que la moitié des réfugiés auront quitté l'île à Noël et l'autre moitié à Pâques en avril prochain.
Merci Hélène pour ces témoignages très forts que vous nous avez permis d'entendre. On va rejoindre Isabelle Horry à Bruxelles. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Ce terrible incendie de Moria et l'urgence de cette situation ont contraint les Européens à réagir. La Commission européenne va enfin présenter des propositions pour mieux gérer la migration.
Oui, ça fait plus de 9 mois qu'on les attend. Le pacte migratoire, comme on l'appelle ici, devait sortir en début d'année, mais le sujet est hyper sensible et les Européens avaient déjà beaucoup d'autres problèmes sur les bras. Mais donc cette fois, ça y est, oui, la Commission va le présenter mercredi prochain. Et d'ailleurs, cette semaine, sa présidente, Ursula von der Leyen, a donné quelques indications.
Je peux vous annoncer que nous allons abolir le règlement de Dublin. Nous allons le remplacer par un nouveau système européen de gouvernance de la migration. Il y aura des structures communes pour l'asile et le retour et il y aura un nouveau mécanisme fort de solidarité.
Alors il faut bien comprendre que cette situation catastrophique en Grèce découle directement de ces accords de Dublin qui prévoient que la plupart des demandes d'asile soient examinées dans le tout premier pays où un réfugié a posé le pied.
Oui, Dublin semble vraiment daté d'un autre temps. La dernière version a été adoptée en 2013. À l'époque, personne n'avait anticipé la crise migratoire de 2015, dont nous ressentons encore les effets. Le principe du pays d'arrivée égale pays de la demande d'asile s'est révélé un énorme problème pour la Grèce et l'Italie. Les textes ne prévoient rien pour les soulager. Beaucoup de migrants se sont donc retrouvés piégés dans ces deux pays.
Ursula von der Leyen évoque justement un nouveau mécanisme de solidarité. Ça pourrait être quoi ?
Bon, depuis plusieurs années, on tourne autour de l'idée d'une répartition plus juste des réfugiés entre Européens, parce qu'après tout, les îles grecques ou italiennes sont les frontières extérieures de toute l'Europe. Mais jusqu'ici, rien n'a fonctionné. En 2016, Jean-Claude Juncker a tenté d'imposer des quotas de migrants, sans succès. Depuis, il y a eu des tentatives pour se répartir à quelques-uns les migrants sauvés en mer. Ça n'a jamais pu être formalisé. Cette fois encore, l'idée de répartition est dans l'air en cas d'urgence et les pays qui ne participeraient pas devraient contribuer d'une autre manière, en payant par exemple.
Justement, certains États membres de l'Europe n'ont jamais accepté d'accueillir le moindre migrant chez eux, vous le rappeliez. Pourquoi l'équation serait-elle différente avec ce nouveau pacte ?
bien, le pari de la Commission, c'est que chacun trouve son compte dans ce pacte. Plus de solidarité, certes, envers les pays de première ligne, mais en échange, plus de responsabilité pour eux. Parce que ces pays ont laissé filer beaucoup de migrants sans enregistrer leurs demandes d'asile ou sans chercher à instruire les demandes déposées. L'an dernier, en France, un quart des demandes d'asile, c'était justement des gens déjà passés par un autre pays. Et puis, il y aura aussi un volet sur le renvoi de ceux dont la demande a été rejetée. C'est un point important pour beaucoup.
Bon, on verra mercredi alors ce qu'il en est dans les détails. Vous nous raconterez ça, Isabelle Horry. Merci.
À bientôt.
À bientôt. Et merci, Hélène.
Merci à vous. Au
revoir. Hélène Terzian, envoyée spéciale à Lesbos. À suivre, les incendies font des ravages sur la côte ouest des États-Unis et à l'est, c'est le déluge. Rien ne va plus. On file dans l'Oregon dans un instant.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Un ouragan et des inondations dans le sud-est des États-Unis, sur la côte ouest, des incendies si dévastateurs que leurs fumées sont arrivées cette semaine en Europe. Démonstration éloquente du dérèglement climatique. Ça finira par se refroidir, commente Donald Trump quand son adversaire Joe Biden le traite de pyromane du climat. Bonjour Xavier Yvon.
Hello Sophie, bonjour à tous.
Vous étiez cette semaine dans l'Oregon, au nord de la Californie, l'un des États terriblement touchés par ces incendies. Et même là, dans le chaos, vous avez retrouvé ce débat avec deux amis que vous avez rencontrés. D'abord, plantez-nous un petit peu le décor.
Je vais vous emmener sur une petite route de campagne, juste avant le village de Gates, au bord de la rivière Santiam. C'est là que le feu s'est arrêté. Il y a des maisons et des arbres intacts d'un côté, et de l'autre, un champ de ruines. L'armature noircie d'une double porte, debout, au milieu d'un amas de tôles tordues. C'est tout ce qui reste d'un bâtiment d'une ancienne école. Une balançoire fondue, encore attachée à ses chaînes. Des camions réduits à des squelettes grisâtres. Un peu plus loin, une grande cheminée en pierre indique qu'il y avait là une maison. Il y a encore de la fumée qui sort du sol. Tout a pris une couleur sépia, tout est enveloppé dans un brouillard épais. Il y a une odeur de fumée qui ne vous lâche pas, avec des cendres parfois qui pleuvent du ciel. Le soleil, lui, n'est qu'un pâle disque au loin. Et au milieu de tout ça, débarque John avec sa casquette, sa moustache et sa bonne humeur. Il sillonne le quartier dans sa voiturette de golf qu'il a transformée en camion de pompier de fortune. John tient à montrer la petite citerne, le générateur et le tuyau qu'il a installé sur sa voiturette. Cet électricien à la retraite est resté pendant l'incendie pour défendre sa maison et celle de ses voisins, tout comme son ami Eric le charpentier qui lui habite un peu plus loin. Eric raconte que le porche de sa maison était en feu. Il lui a fallu 20 litres d'eau pour l'éteindre, mais le reste de son quartier a été totalement rasé. Alors il a trouvé refuge chez John. Ils sont très amis depuis longtemps, mais il y a une chose qui dérange particulièrement Eric chez John, c'est son immense drapeau Trump planté sur son toit.
Parce qu'ils ne sont pas d'accord politiquement.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Je t'ai rencontré le jour même justement où Donald Trump était sur la côte ouest pour constater les dégâts et faire cette fameuse déclaration « Vous inquiétez pas, ça va se refroidir ». Et voilà leur échange.
Il est à la télé en ce moment en train de répéter « Gestion des forêts, gestion des forêts ». C'est ce que je dis aussi, c'est la vérité.
Sa réponse à toute cette merde, c'est de débroussailler les forêts. Mais enfin, le changement climatique a un rôle. Est-ce que je pense que nous sommes mauvais avec notre environnement? Absolument, surtout aux États-Unis.
Oui, c'est ça, le réchauffement, il fait chaud, il fait froid. Enfin bon, je pense qu'il faut surtout s'occuper des forêts avant de dire fini le pétrole, fini les avions, fini les vaches qui pètent et tout ça. Enfin voyons.
Oui, nous ne sommes jamais d'accord.
Au moins, ils le prennent avec le sourire. Jamais d'accord sur rien.
En fait, la pomme de discorde, c'est le président. Eric et John, c'est un bon résumé de l'enjeu de cette élection qui arrive en novembre. C'est un référendum pour ou contre Trump. John adore Trump. Moi, je le déteste, explique Eric. Pour taquiner John, il a même modifié son panneau Trump dans son jardin en ajoutant un « no » devant le nom du président. Plus sérieusement, Eric détaille tout ce qu'il reproche à Donald Trump.
Well, he's been president for, what, 3.5 years?
Il est président depuis quoi, 3 ans et demi? Et il accuse le service des forêts, mais pourquoi il n'a rien fait à ce sujet? Il montre du doigt tout le monde, sauf lui. Il ne reconnaît jamais aucune responsabilité pour quoi que ce soit. Il ne fait des choses que dans son intérêt. Il n'en a rien à foutre des gens. Il est censé être le président de tout le monde, pas juste de la moitié qui est de son côté. Il n'est que division. C'est comme ça qu'il a été élu. Et bon, vous savez, John ne voit pas les choses comme ça. Pas du tout. Mais c'est son droit. Je respecte son opinion.
And I respect his opinion.
Et John, lui, est en effet un fan absolu de Donald Trump. Il répète mot pour mot toute la doxa trumpiste entendue sur Fox News. Donald Trump est persécuté par les démocrates, il est maltraité par les médias. Lui seul peut sauver l'Amérique du chaos. Et d'ailleurs, le discours sur la loi et l'ordre que Donald Trump martèle ces derniers jours après les émeutes raciales, eh bien, il résonne particulièrement chez John.
Oh, geez, they're burning down everything.
Mais ils brûlent tout à Portland et ailleurs. C'est des villes gouvernées par des démocrates. Et ces grandes villes sont en train de brûler. Et ils vont venir ici après. Bon, ils ne sont pas encore venus, hein, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas reçus avec des coulissiers et de la glace.
Et pour bien se faire comprendre, John exhibe son pistolet 9 mm.
Okay.
Eric, lui, sort son arme de poing coincée dans le dos de son pantalon. Alors, c'est totalement ordinaire dans cette Amérique rurale d'être armé. Mais les deux amis savent que c'est aussi un danger. Pro et anti-Trump ne sont pas tous en aussi bons termes que ces deux-là. Il y a déjà eu des affrontements avec un mort, notamment à Portland. C'est dans leur état. Et ça, ça leur fait peur.
Chaque camp fait du mal à l'autre, jusqu'à ce que ça devienne violent. Mais on ne sait pas quel côté a frappé en premier. Mais bon, vous savez, si la marmite déborde, c'est comme ça qu'une guerre civile commence. Hein. Enfin, je ne sais pas, t'en penses quoi?
Oh mon Dieu, j'espère pas. C'est pas la réponse. Ce serait horrible.
Horrendous.
Mais moi, je protégerai John.
John's back.
Voilà, Eric le Barbu et John le Moustachu rappellent qu'ils ont beaucoup plus de choses en commun qu'une dispute autour du président. Ils sont par exemple unanimes pour dire que jamais leur région n'avait connu des feux aussi dévastateurs.
Voilà, un face-à-face amical et sympathique, mais qui raconte aussi cette Amérique divisée à quelques semaines du scrutin. Merci beaucoup Xavier et à très vite dans les carnets pour la suite du feuilleton des élections. Alors.
Ouais, très vite.
À suivre, une musique dans le monde. Et je vous annonce beaucoup, beaucoup de douceur avec une chanteuse marocaine incroyablement talentueuse.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
La culture, c'est une autre manière de découvrir le monde à travers le regard, la plume ou la voix d'artistes étrangers. Et vous le savez, cette année, on explore de nouveaux terrains dans les carnets. Voici donc la découverte d'une musique dans le monde. Bonjour Angèle.
Bonjour Sophie.
Angèle Châtelier du service culture de la rédaction d'Europe 1. Je suis ravie que vous veniez cette année nous proposer des voyages musicaux comme ça. Et pour cette première, c'est l'album d'une jeune femme marocaine que vous partagez avec nous. Elle s'appelle Meriem Aboulouafa.
Exactement. La musique de Meriem Aboulouafa est bâtie comme l'on façonne une maison, un toit, par étapes, avec les bons matériaux aux bons endroits. Rien d'étonnant à ce que sa musique s'élève avec une puissance redoutable sans qu'à aucun moment cela ne soit pompeux. Meriem Aboulouafa est architecte d'intérieur. Sa musique, elle l'agence et elle l'élabore comme un foyer. Like nature, we are made of sun and rain, desert and snow, mountains and plains. How can you judge someone reacting sometimes differently? We are gathering hate and love, pureness and darkness. Alors, Meriem Aboulouafa est marocaine, mais c'est où son foyer? Eh bien, son foyer à elle, c'est Casablanca. Elle y est née, elle y vit encore. Sa ville, elle la regarde avec une tendresse empathique, elle la cajole même.
C'est difficile au fait de parler vraiment objectivement de ma ville, mais c'est une ville vraiment, en tout cas pour moi, je la vis comme... c'est ma ville, c'est mon espace, c'est vraiment mon espace où je me suis développée, où j'ai évolué, où j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est un espace qui a vraiment énormément de potentiel, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Et je trouve que c'est une ville qui ne s'estime pas assez. Elle a vraiment énormément à donner, elle est très riche et très sauvage, dans le bon sens du terme. Et comme tout sauvage, elle est naturelle. Et donc, elle est très vraie, au fait, Casablanca. J'aime beaucoup. I dance with words, words dances with me. He smiles at me, I love for us both. Par exemple, Paris, c'est une ville qui est belle et c'est une ville qui le sait. Elle sait très bien qu'elle est belle. Casablanca, par contre, je trouve qu'elle n'a pas d'estime, au fait, pour le potentiel qu'elle a.
Meriem Aboulouafa chante aussi bien en anglais qu'en arabe. Sa musique est très introspective. À 31 ans, elle ne cesse de s'observer elle-même, de s'analyser, de tenter de trouver un sens aux choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est le sujet de son premier album, appelé sobrement Meriem.
You are
végétal, hein, c'est planant.
Magnifique.
Qu'est-ce qu'il a révélé, Myriam Abouloafa ?
Eh ben, un morceau a lancé sa carrière, c'est Yakalbi, un chant traditionnel algérien que l'on doit à la cantatrice algérienne Fadela Dziria. Depuis chez elle, elle l'a enregistré à sa manière et c'est le premier morceau qu'elle a envoyé à sa maison de disques.
C'est une musique que j'aime vraiment beaucoup, je ne l'ai pas découvert vraiment très jeune, mais par contre je l'ai découvert en fait en 2014, plus ou moins autour de 2014-2013 peut-être. Et c'est un morceau que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était assez introspectif aussi. Il était vraiment plein de quiétude et beaucoup, enfin, plein de sérénité. C'était, ça me ressemblait bien, en tout cas au moment où je l'ai écouté. C'est un dialogue en fait, avec soi, avec... C'est une autoconsolation, je ne sais pas si ça fait un sens, mais c'est un morceau qui appelle à l'autoconsolation, à l'auto-quiétude. Je pense que c'est un mot inventé, mais enfin, une consolation en fait, un peu par soi-même et une résiliation, en fait. Je trouve ça très beau.
Myriam Abouloafa, en tout cas, nous console. Son premier album, ce sont 11 titres envoûtants, ensorcelants. À écouter idéalement, Sophie, à l'aube ou tard dans la nuit, hein, pour laisser notre esprit divaguer.
Jolie divagation. J'aime beaucoup le concept d'autoconsolation.
Exactement.
Aussi. C'est très très chouette. Merci beaucoup.
Merci
pour cette découverte, Angèle. On mettra les références de l'album sur le sommaire des carnets sur europe1.fr. Merci et revenez donc régulièrement.
Oui,
hein.
Avec plaisir.
Partagez vos coups de cœur musicaux du monde avec nous. On se réécoute un petit peu de Myriam Abouloafa.
You don't know whether to stay or to run away. You don't know whether to stay or to run away.
Quelle jolie découverte! On file au Japon dans un instant. Changement de Premier ministre et bilan très mitigé.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Le Japon a un nouveau Premier ministre. Mercredi, Shinzo Abe a démissionné pour raison de santé. Il a été remplacé par celui qui était son porte-parole et fidèle bras droit, Yoshihide Suga. Shinzo Abe dirigeait le pays depuis la fin 2012, depuis près de 8 ans. C'est un record de longévité pour un chef de gouvernement au Japon. Avant lui, on changeait plutôt tous les ans de Premier ministre là-bas. Voilà pourquoi on a souhaité dresser un petit bilan de cette ère Abe qui s'achève. Il y a des aspects positifs à souligner. L'indice boursier japonais, le Nikkei, a doublé depuis 2012. Les bénéfices des entreprises atteignent des sommets. Le chômage a été réduit de moitié. Malgré toutes les suppressions d'emplois dues à l'épidémie, il n'atteint même pas 5%. Ça fait rêver, vu d'ici. Mais d'un autre côté, Shinzo Abe n'a pas réformé les rythmes de travail comme il l'avait promis. Les Japonais continuent de trop travailler et même à mourir de surmenage pour 2 à 300 d'entre eux chaque année. La culture d'entreprise est restée très archaïque. Elle continue par exemple à faire très peu de place aux femmes. Et puis aussi, le monde du travail s'est terriblement précarisé ces 8 dernières années. C'est sans doute un des aspects les plus marquants des années Abe. Voilà pourquoi on a choisi de s'y arrêter avec Bernard Delattre à Tokyo, bien sûr. Bonjour Bernard.
Bonjour Sophie.
On l'a souvent rappelé dans les carnets, hein, au Japon, 40% des salariés n'occupent pas un emploi régulier. Ils sont précaires et donc mal payés. Et au total, ça fait 22 millions de Japonais quand même qui galèrent professionnellement et qui évidemment ont des difficultés à boucler leur fin de mois. Avec vous Bernard, on se penche sur ce mouvement de protestation des jeunes travailleurs précaires, mouvement qui est né sous le règne de Shinzo Abe justement.
Oui, il a débuté en 2015. Cette année-là, des jeunes smicards ont formé un collectif qu'ils ont baptisé Equitas, équité en latin. Leur but, c'était d'obtenir la hausse du salaire minimum à 1500 yens de l'heure, 12 euros environ. Aujourd'hui, le SMIC horaire est vraiment très bas au Japon. 902 yens, ça fait à peine 7 euros.
Wow, effectivement, c'est bien moins qu'en France. Chez nous, je rappelle, hein, le SMIC horaire est à 10,15 euros.
Voilà. Et en fait, ces jeunes précaires japonais s'inspiraient de la mobilisation des travailleurs du secteur de la restauration rapide à New York, qui étaient en train de se battre depuis 3 ans pour que le SMIC passe à 15 dollars l'heure dans les fast-foods. Et donc, ce mouvement Equitas a vu le jour dans des grandes villes comme Tokyo ou Osaka, puis il a très vite essaimé. Et pendant toutes les années Abe, les manifestations de jeunes se sont multipliées un peu partout dans le pays. Des cortèges toujours très visuels et sonores, avec souvent des groupes de rock ou de rap qui y participaient. Comme ici, c'était il y a moins d'un an à Tokyo. Dans ces rassemblements, les gens scandent des slogans en anglais même parfois. Battez-vous pour vivre, battez-vous pour vos droits, crie ce jeune avec la foule. Je m'étais rendu à cette manifestation de travailleurs précaires et ce jour-là, à la tribune, se sont succédés des jeunes orateurs très en colère qui témoignaient de leur galère quotidienne à cause de la misère de leur salaire. Et c'était d'autant plus fort que le discours à la première personne, vous savez, ça ne se fait pas trop ici. C'est considéré comme impudique, voire narcissique. Mais là, enfin, des Japonais osaient dire en public ce qu'ils avaient sur le cœur. C'est une des raisons pour lesquelles ce mouvement a tant marqué les esprits ici. Écoutez.
Augmenter le salaire minimum, c'est absolument indispensable. À 1500 yens de l'heure, ça changerait complètement notre vie. Comme vous tous, mon petit salaire ne me permet même pas d'inviter ma copine au cinéma, d'aller manger des nouilles ou un curry avec mes potes au snack du coin. Et qu'est-ce que ce sera demain ? Avec un salaire pareil, comment imaginer fonder une famille, avoir une maison, acheter une voiture, payer les études des gosses ? C'est impossible ! Comme des millions d'autres, je ne peux même pas avoir le moindre projet de vie. Donc bougeons-nous tous ensemble, les amis, pour que ça change. Continuons à manifester, à mettre la pression sur nos employeurs et sur le gouvernement. Surtout, ne lâchons rien. C'est la seule manière d'avoir un avenir meilleur.
Dans ces cortèges, il y a toujours beaucoup de femmes. C'est pas un hasard. Au Japon, une femme gagne en moyenne 25% de moins qu'un homme. En plus, 6 Japonaises sur 10 n'ont qu'un emploi sous-statutaire. C'est 2 fois plus que les hommes. Et c'est le cas de cette jeune fille, par exemple.
Moi aussi, depuis que je travaille, j'enchaîne les emplois précaires, plus ingrats les uns que les autres. Cela fait des années que ça dure, mais je me suis toujours accrochée. J'ai toujours fait mon travail le mieux possible. Parce que c'était la promesse que je m'étais faite quand j'étais môme. Être épanouie et compétente dans mon boulot, et puis fonder une famille et être heureuse. Mais là, je commence vraiment à me demander si je pourrai un jour réaliser ce rêve. Quel est mon avenir avec une telle précarité ? Les amis, ne renonçons pas à nos rêves de gosse. Et donc, exigeons d'être mieux payés. Réclamons la hausse du salaire minimum.
La première cible des manifestants, Sophie, ce sont les Black Kigyo, en français, les entreprises noires.
Entreprises noires à cause des salaires très bas ou des conditions de travail ?
Les deux. C'est souvent le cas, par exemple, dans ce qu'on appelle ici les combini. Ce sont des supérettes de quartier qui sont ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. On en compte 60 000 au Japon. En majorité, ce sont des jeunes qui y travaillent, et dans ces conditions, et dans des conditions indignes, qui sont fréquemment dénoncées par les syndicats. Par exemple, leurs heures supplémentaires ne leur sont pas payées, ou alors à un tarif inférieur à ce que la loi prévoit. On leur interdit de se syndiquer. Même malades, ils doivent venir travailler. Ils doivent louer l'uniforme qu'on leur impose de porter, etc., etc. Ce qui met ce jeune homme en colère.
Collègues et amis des combini, combien de temps va-t-on laisser nos employeurs continuer à nous maltraiter comme ça ? Ils nous font bosser comme des dingues. Depuis l'aube jusqu'au soir et même des nuits entières. Mais ils nous payent si mal qu'on n'arrive même pas à boucler nos fins de mois. Mais enfin, c'est pas une vie. Et c'est inacceptable. On fait bien notre boulot. Donc on a droit à des conditions de travail dignes, à un salaire décent. Être des hommes et des femmes libres, c'est refuser de subir en silence. Savoir dire stop, ça suffit donc. Collègues et amis des combini, battons-nous pour nos droits. Je vous le demande pour que ça change tous ensemble. Faisons entendre notre voix.
Une voix qui est assez peu entendue, Sophie, il faut bien le dire. Cette année, le SMIC horaire a été augmenté, tenez-vous bien, d'un yen.
Ça fait combien en euros ?
Même pas un centime.
Ah, c'est ça, c'est peut-être même pire que tout d'être augmenté de si peu. Merci Bernard pour cet éclairage, pour ces témoignages de jeunes précaires qui sont très concrets et qui sont touchants. On sent beaucoup, beaucoup d'émotions. Évidemment, ces derniers mois, on imagine que la pandémie a encore accru la précarité pour tous ces jeunes travailleurs.
Ah oui, 60% des Japonais qui ont perdu leur emploi depuis l'apparition du virus sont des travailleurs précaires, notamment ces jeunes qui bossaient dans un secteur de l'hôtellerie, l'événementiel, le tourisme, le monde du spectacle, etc. Au moins 4 à 500 000 emplois ont été supprimés dans ces secteurs. Et puis, ces travailleurs précaires ont rarement droit à des allocations de chômage. Donc, s'ils ne retrouvent pas rapidement un boulot, ils sont vraiment dans le pétrin. D'autant que d'après les enquêtes, à cause des salaires aussi bas, 60% des Japonais âgés de 20 à 30 ans n'ont pas la moindre épargne sur leur compte en banque. Et 7 sur 10 ont même besoin de l'aide financière de leurs parents pour boucler leur fin de mois.
Et ce qu'il faut noter, Bernard, c'est que cette précarisation ne concerne pas que les jeunes.
Non, elle touche également les personnes âgées. Ici, 19% des seniors vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un record dans les pays industrialisés. Ce qui explique que tant de retraités ont un petit boulot. Sinon, ils n'arriveraient pas à joindre les deux bouts.
Voilà les écarts de richesse qui se sont accentués pendant cette ère Abe. Un héritage difficile pour le nouveau Premier ministre Yoshihide Suga et un chantier donc pour rendre la société japonaise plus égalitaire. Merci beaucoup Bernard pour ce coup de projecteur sur le Japon et puis à une prochaine fois dans les carnets.
Merci à vous Sophie, à très bientôt.
Et dans un instant, c'est sur le Mékong qu'on vous emmène, un fleuve au carrefour de 6 pays et qui souffre d'être devenu un enjeu stratégique. À tout de suite.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
En Asie du Sud-Est, on l'appelle la mer rivière. C'est au bord du fleuve Mékong que je vous emmène maintenant. Il traverse 6 pays, la Chine, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Près de 70 millions de personnes dépendent de ce fleuve pour vivre. Mais depuis quelques années, son extraordinaire biodiversité est menacée par le changement climatique, bien sûr, et surtout par des dizaines de barrages hydroélectriques installés sur son cours. La zone, parce qu'elle est stratégique, devient une ligne d'affrontement entre les puissances régionales. La bataille pour le Mékong, c'est un reportage de Carole Isou.
Ces femmes chantent pour encourager les poissons à se laisser prendre dans les filets des pêcheurs. Au village de Chiangkran, dans le nord de la Thaïlande, le majestueux fleuve Mékong est au cœur de la vie des habitants, à la fois source d'alimentation, de revenus, d'énergie et personnage principal des légendes et croyances locales. Mais il est loin le temps où il suffisait de jeter un filet quelques minutes dans l'eau fertile pour ramasser des dizaines de poissons. Depuis quelques années, la pollution, le réchauffement climatique, mais surtout la vingtaine de barrages installés en amont du fleuve, 11 en Chine, 7 projets au Laos, ont complètement changé la donne et rendu la vie impossible aux pêcheurs. C'est ce que nous explique Lek. C'est la seule femme pêcheuse au village et elle est très fière de son métier.
Avant, l'eau suivait le calendrier des saisons. Et nous, les pêcheurs, on savait quand elle montait, quand elle descendait. Aujourd'hui, non seulement l'eau a baissé d'au moins 2-3 mètres, mais le flux est devenu complètement irrégulier. L'eau monte pendant 2 jours, puis baisse soudainement le troisième, ce n'est pas naturel. Ça perturbe les poissons, leur migration, leur reproduction. Ils ne savent plus où se réfugier et nous, on ne sait plus où les trouver. Beaucoup d'espèces ont disparu.
Les conditions sont devenues particulièrement difficiles depuis la mise en service l'année dernière de l'immense barrage de Sayaburi au Laos voisin. Il aurait fait baisser la population de poissons de 70% par endroit selon des ONG. Et il n'y a pas que la pêche. Le contrôle du flux de l'eau par les barrages en amont a mis fin à tout un système de culture de subsistance. Cet agriculteur a vu les rives changer.
Avant les barrages, tout le monde avait un petit lopin de terre sur les rives du fleuve. Tout poussait facilement. On plantait tous les ans. Des salades, des choux. On connaissait le rythme des saisons. Quand l'eau baissait, c'était le moment de planter. Notre savoir valait quelque chose. Mais maintenant, l'eau peut remonter à tout moment hors saison, s'ils ont décidé de relâcher de l'eau en amont. Alors toutes les récoltes sont inondées, on perd tout. Du coup, on n'ose plus planter.
Toute une population qui se nourrissait de poissons et de légumes frais doit désormais acheter des produits industriels, entraînant un appauvrissement considérable, financier bien sûr, mais aussi sanitaire et culturel. Alors quand la nouvelle de la construction d'un nouveau barrage est tombée il y a quelques mois, juste en face du village, sur la rive laotienne à Sanakram, les habitants de Chiangkran ont décidé de se mobiliser. Réunions, pétitions, certains comme Chanarong Wongla sont même devenus quasiment activistes à plein temps. Pour lui, sauver le Mékong, c'est sauver tout un mode de vie, une philosophie, une certaine notion du développement.
Ils nous rebattent les oreilles avec leur développement. Mais quel développement? Un développement qui profite à un tout petit nombre et étrangle tous les autres? On n'en veut pas de ce développement-là. On n'en veut pas de ce barrage, on n'a pas besoin de plus d'électricité. On ne sait même pas pourquoi ils le construisent, franchement, ce n'est pas clair. Ils nous imposent des décisions d'en haut, il n'y a aucune consultation des populations locales. On ne peut plus accepter ça. Le Mékong est un bien commun à 6 pays, on doit être consulté.
Un récent rapport du ministère thaïlandais de l'énergie indique que les apports en électricité du pays sont déjà largement excédentaires. Quant au Laos, petit pays enclavé qui ambitionne de devenir la batterie de l'Asie du Sud-Est, il a lancé une cinquantaine de projets de barrages sur son territoire. De gros contrats en perspective pour les entreprises chinoises et thaïlandaises en partenariat avec les gouvernements locaux. L'institution chargée officiellement de la régulation de la zone, le comité du Mékong, n'a qu'un pouvoir de recommandation et pas assez de poids pour s'opposer au nouveau barrage.
Ce comité, il faudrait le supprimer. Il ne sert en rien les intérêts des peuples du Mékong. Il faut qu'on s'unisse au niveau citoyen, avec les Cambodgiens, les Laotiens, même les Birmans et les Chinois. C'est ce qu'on essaie de faire depuis quelques années, mais c'est très lent, à cause des différences d'éducation, de liberté d'expression. Au Laos, par exemple, la population ne peut pas s'exprimer, c'est trop dangereux. Ils ont peur pour leur vie.
La destruction du Mékong est un enjeu global qui concerne toute l'Asie. La retenue en amont des sédiments par les barrages appauvrit l'eau, favorise la salinisation qui menace d'engloutir le delta du Vietnam d'ici quelques années. Le fleuve représenterait près de 60% des apports en protéines des Cambodgiens. En Thaïlande, là où la contestation est la plus virulente, alors qu'un vent de changement souffle sur le pays, les citoyens espèrent que pour la première fois, leur voix sera entendue. Jiang Kran, Carolizou, Europe 1.
Retour dans les studios d'Europe 1 avec Carole Izou, notre correspondante basée en Thaïlande, qui est là avec nous. Bonjour Carole.
Bonjour Sophie.
De passage à Paris, c'est sympa de vous avoir avec nous. Je le disais juste avant votre reportage, cette zone, elle est stratégique. Elle est même en train de devenir la nouvelle ligne de front après la mer de Chine dans la guerre d'influence entre les États-Unis et la Chine.
Et oui, les deux puissances se battent à coups de rapports scientifiques interposés. En avril dernier, une étude financée par le gouvernement américain et fondée sur des images satellites montrait que la Chine avait retenu une énorme quantité d'eau en 2019, au moment même où les pays en aval souffraient de la pire sécheresse de leur histoire récente. Ça avait suscité bien sûr une vague d'indignation mondiale. Les autorités chinoises ont assuré qu'au contraire, les barrages avaient aidé à soulager un peu la sécheresse. Ça n'a convaincu personne. Beaucoup des ONG qui fleurissent en ce moment en faveur de la défense du fleuve sont financées, c'est vrai, par des fonds américains.
Alors, en quoi la zone est-elle tellement stratégique pour les Américains?
Alors, en fait, ils sont restés très présents dans cette région du Mékong depuis la guerre du Vietnam. Ils y ont installé plus d'un millier d'entreprises dont les investissements augmentent d'environ 10% par an. Contrôler le Mékong, c'est contrôler la diplomatie de l'eau, c'est-à-dire tout l'agenda du développement dans l'une des zones les plus dynamiques de la planète. Bien sûr, culturellement, la zone penche du côté chinois depuis toujours, mais les Américains voudraient favoriser la cohésion régionale des pays du bas Mékong afin de retarder l'inéluctable, la montée du contrôle chinois.
Ouais, et les autorités des pays concernés, justement, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, ça ne les dérange pas ce contrôle absolu du flux de l'eau par la Chine?
Alors dans la région, vous savez, comme toujours, c'est délicat de s'opposer publiquement aux géants chinois, le principal partenaire commercial, bien souvent, qui prête des milliards pour construire des infrastructures comme au Laos par exemple. Mais le rapport que je viens d'évoquer a suscité une grande colère et libéré la parole de certains dirigeants politiques. Désormais, ils attendent de la Chine, qui contrôle la source du Mékong et toute la partie en amont, qu'elle agisse en véritable leader régional et donc qu'elle considère aussi les besoins des autres pays. Ils observent d'ailleurs cette expérience du fleuve comme un test de fonctionnement d'une future hégémonie chinoise.
Voilà, avec ou sans coopération avec les pays de la région, justement, à suivre. Merci beaucoup, Carole, pour cette balade très instructive sur les bords du fleuve Mékong. Et puis, rentrez bien en Thaïlande.
Merci beaucoup. À bientôt, Sophie.
Et nous, à quelques minutes de se dire au revoir, on file en autistan, bien sûr.
Les carnets du monde sur Europe 1.
Sophie Larmoyer.
Il regarde le monde à sa manière, avec son bagage de philosophe et aussi celui de son autisme. Et puis surtout, Joseph Chovanec est un citoyen du monde, souvent en vadrouille. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors comme chaque dimanche dans les carnets, vous nous emmenez faire un tour en Autistan. Et aujourd'hui, ça se passe du côté des bibliothèques que vous avez croisées au gré de vos voyages.
Et oui, voyage par exemple à Eupen, ou Eupen si vous le dites à la française. Vendredi dernier, j'y étais. C'est un endroit très curieux. On y parle allemand, mais c'est en Belgique. C'est proche D'accord. de la frontière allemande, mais aussi des Pays-Bas. Un excellent observatoire des identités, en somme. Le prof d'une école spécialisée dans l'inclusion des élèves handicapés m'a expliqué là-bas combien il était curieux qu'à 5 km près, d'un côté de la frontière linguistique, tout le monde connaît ce site Bourdieu, par exemple, tandis que de l'autre côté de la frontière, eh bien, le plus grand sociologue, c'est Niklas Luhmann. Sachant que même pour un francophone très érudit et passionné de sciences humaines, Luhmann est, selon toute vraisemblance, un inconnu parfait.
Ouais. C'est un sociologue allemand, mort il y a un peu plus de 20 ans et qui est très connu outre-Rhin.
Oui, pour sa théorie complexe des institutions notamment. En tout cas, cette petite anecdote m'a fait réfléchir. Car finalement, ce que l'on trouve dans nos bibliothèques, on dit beaucoup plus long sur nous-mêmes que sur la science ou la culture en général. C'est sans doute la raison d'une bien étrange manie autistique que j'ai depuis de longues années. Quand j'arrive chez quelqu'un d'inconnu, mon premier réflexe est de regarder discrètement quel livre figure chez lui ou chez elle. Donc faites attention si vous m'invitez. Le nombre, le type de livres sont des indicateurs sans pareil.
Montre-moi ta bibliothèque, je te dirai qui tu es.
Exactement. En Occident, on croit souvent que plus il y a de livres dans une demeure, plus le maître de maison est érudit. Ce n'est pas toujours vrai, parce que le gros des rayonnages est souvent occupé par des encyclopédies qui ont l'air très savantes, mais qui ont dû servir pour la dernière fois il y a plusieurs décennies. Mais à l'inverse, en Inde, traditionnellement, les vrais érudits à l'ancienne ne possèdent strictement aucun livre. Cela peut choquer. J'en avais compris la raison il y a une bonne dizaine d'années en arrière, quand je fréquentais seul étudiant, les cours d'un très savant professeur indien de sanskrit classique. Ouais. Je peinais à transporter le redoutable poids des livres requis pour chaque cours, entre les épais manuels de grammaire, la fameuse grammaire du sanskrit à côté de laquelle le latin est du pipicha, si on me permet la tournure, les dictionnaires érudits en 6 volumes et bien sûr les textes en cours de lecture. Mon prof, quant à lui, il venait toujours les mains dans les poches, littéralement, parce que n'importe quel livre en sanskrit classique, même volumineux, il le connaissait absolument par cœur. Wow. Il suffisait de lui donner le numéro de chapitre et commencer la récitation à la virgule près. Quand on a vécu ce type de situation, on ne peut que ressentir un profond sentiment d'infériorité.
Et sinon, Joseph, dans certaines cultures, est-ce que dans les bibliothèques, il y a des incontournables.
Ah oui, en Iran par exemple, dans chaque maison, même la plus humble, il y a deux livres, le Coran certes, mais aussi les œuvres complètes de Hafez de Shiraz, le plus grand poète de la Perse. À vrai dire, la présence de ce dernier livre est relativement superflue parce que la majorité des Iraniens connaissent par cœur ses poèmes. Dans d'autres pays, bien sûr, ce sont d'autres livres. En Asie centrale, par héritage soviétique sans doute, on trouve même dans les petite ruelle des vendeurs de livres ambulants. Quand on s'est fouiné, on peut chiner de pures merveilles, de très vieux livres dont c'est peut-être le seul exemplaire existant. D'une certaine façon, là, j'ai pu goûter à la bibliodiversité. Quoi. Et justement, demain, 21 septembre, nous fêterons cette journée mondiale de la bibliodiversité. Si vous voulez, c'est l'équivalent de la journée de l'écologie, mais appliqué aux livres. Je ne sais pas si Greta Thunberg nous écoute aujourd'hui, mais je crois qu'il nous manque une voix analogue à la sienne pour porter ce combat.
Voilà, vive la bibliodiversité, c'est un joli concept. Et tiens, demain, c'est aussi la journée de la paix.
Oui, c'est très logique,
tout
finalement.
Ça se tient parfaitement. Merci beaucoup, Joseph. À dimanche prochain.
À tout bientôt.
Et c'est l'heure de se quitter, de refermer les carnets. Merci de nous avoir accompagnés. Vous pouvez réécouter et partager l'émission. Comme d'habitude, vous la trouverez sur europe1.fr. Et puis, je vous rappelle notre adresse mail très facile. C'est lescarnetsdumonde@europe1.fr.